Salut tout le monde, avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je voulais vous parler d'Artae Immobilier. Artae Immobilier, c'est une société que j'ai fondée il y a quelques temps et qui produit aujourd'hui ce podcast. Alors si vous voulez vous lancer et investir dans l'immobilier, comme moi depuis de nombreuses années, c'est la bonne décision évidemment, je ne vous l'apprends pas, vous savez, vous connaissez mon appétence à l'investissement locatif, on en parle beaucoup sur ce podcast, mais peut-être que vous n'avez pas forcément de temps à y consacrer, peut-être que vous n'êtes pas sur place, peut-être que vous avez peur de faire des erreurs, peut-être que vous souhaitez simplement accélérer dans vos investissements et aller plus vite en déléguant. Ben, je pense qu'on est fait pour se rencontrer et échanger sur ce sujet-là, avec moi directement ou avec mon équipe. Et pour réaliser votre projet sereinement, Artae vous accompagne avec une offre clé en main, spécialement conçue pour les investisseurs. Artae Immobilier, c'est une agence spécifique pour les investisseurs, 100% dédiée à eux et à l'investissement locatif. De l'acquisition du bien jusqu'aux travaux, puis à l'ameublement, à la décoration, à la mise en location, vous êtes guidé, conseillé, accompagné de A à Z par notre équipe de pros que je recrute personnellement, et croyez-en mon exigence, je recrute que des gens compétents et composés surtout d'investisseurs aguerris ou, s'ils le sont un peu moins, que je forme moi-même aussi au métier de l'investissement immobilier. Optez pour les étapes dont vous avez besoin sans problème, bénéficiez de l'accompagnement qui vous correspond. On est aussi votre coach tout au long de ce projet, vous montez en compétence grâce à nous, c'est du clé en main, c'est de la délégation, mais ça vous permet aussi de monter en compétence. Vous pouvez nous confier la recherche du bien, vous pouvez nous confier uniquement les travaux, l'ameublement, la déco. C'est vraiment un accompagnement et un service sur mesure. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site artae.imo, vous trouverez quelques informations à ce sujet. Sur le site également aussi investiratoulouse.com pour ceux qui voudraient investir en région toulousaine, mais on n'est pas basé qu'à Toulouse, donc on peut aussi vous accompagner ailleurs. Mais ça vous permettra de voir un petit peu la qualité aussi de réalisation qu'on peut produire pour votre compte. Et puis aussi à nous suivre évidemment sur Instagram, Artae Immobilier, très simple, ou sur LinkedIn, Artae Immobilier. On partage aussi pas mal de réalisations qu'on fait, en tout cas pour le compte de nos clients. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, à contacter notre équipe pour échanger autour de votre projet directement par email à contact@artae.imo, tout simplement. Voilà, l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet d'investissement et de vous accompagner tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi chaque semaine. Voilà, merci encore d'être là. À très vite, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès « S'enrichir grâce à l'immobilier ». J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec un invité encore différent aujourd'hui, mais que certains d'entre vous connaissent déjà et que moi je connaissais bien avant de le recevoir sur le podcast Money Tree, puisque c'est quelqu'un qui m'a déjà reçu, je sais pas, ça devait être en 2021 peut-être, sur un des premiers Finari Talk. Salut Mounir.
Salut Julien.
Donc je reçois Mounir Laghoun, comme vous avez pu le lire sur la description de l'épisode d'ailleurs, le fondateur et le boss aujourd'hui de Finari. Finari, ou on prononce comment au final ?
On prononce comme on veut.
Comme on veut, ça dépend de là où on se trouve.
Voilà, ça dépend du pays. Moi je dis Finari, ouais. Et tu vois, je pensais avoir un nom très américain, et quand on est allé aux États-Unis, les Américains, ils disaient Finery.
Finery, ok.
Donc, tu vois, okay. Moi, je m'attendais à Finery, mais en fait, non.
Ouais, même pas du tout.
Bon, donc, okay. Moi, je suis très français sur ça.
Bon, bah, Finery, ok. Bon, un bon franchouillard, ça marche. Mounir, je suis ravi de te recevoir sur le podcast parce que, comme je disais, tu m'as reçu et franchement, j'avais kiffé faire ce talk avec toi sur l'investissement immobilier. C'était pas les tout débuts de Finari, mais c'était quand même, on était dans les early stage, on va dire, de Finari. C'était avant votre levée de fonds, c'était avant que aujourd'hui, voilà, t'es une grosse équipe comme ça. Hein. Je crois qu'à l'époque, vous étiez juste peut-être 3 ou 4, voilà, personne. C'était très chouette. Je faisais partie des premiers utilisateurs et j'étais franchement assez halluciné par l'outil à l'époque, qui aujourd'hui est 10 fois plus bodybuildé que ce qu'il était. Et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on partage ça aux oreilles de tous, à tous les auditeurs et auditrices de Money Tree. Donc je vais te laisser peut-être te présenter d'abord et puis nous expliquer ce qu'est Finari et pourquoi aussi tu as voulu créer tout ça.
Bah top, bah merci en tout cas de me recevoir. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal échangé depuis toutes ces années. Et je me souviens d'une anecdote, je ne sais pas si tu t'en souviens, Mais nos premiers échanges, c'était parce qu'on venait d'implémenter les emprunts sur Finari. Et toi, tu avais plein d'emprunts un peu bizarres avec plein de trucs, des paliers, du prêt gigogne. Et donc, on avait débugué plein de cas. Et,
oui, parce que je ne retrouvais pas les tableaux d'amortissement.
Parce que tu n'arrivais pas à retrouver les mêmes valeurs. Et du coup, c'est vrai que, bah, en fait, concrètement, ton feedback de l'époque, il a profité à des dizaines de milliers de personnes depuis qui ont pu, bah, évidemment, éviter tout ça et avoir... les calculs juste en automatique.
En tout cas, c'était un plaisir. Et tu vois, c'est ce que j'aime chez Finari aussi, c'est cette communauté qu'il y a autour, le forum. Alors moi, j'y suis plus suffisamment actif, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a ce forum, cette communauté qui fait évoluer le produit. J'ai l'impression de manière aussi importante que les devs que vous avez en interne, quoi. C'est vraiment le retour utilisateur et les besoins utilisateurs, et c'est de ça que vous inspirez. Et je trouve que toutes les boîtes devraient faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire s'inspirer des utilisateurs avant d'essayer de pousser un service et d'en faire un flop, quoi.
Exactement. Je pense qu'il faut répondre à des problèmes, à des vrais problèmes. Il faut résoudre des problèmes pour les utilisateurs. Il faut demander aux utilisateurs quels sont leurs problèmes. Il ne faut pas forcément leur demander la solution, parce que des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes. Mais en tout cas, il faut les impliquer dans le processus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos utilisateurs, c'est nos fans. Et nous, on est fans de nos utilisateurs parce qu'on a créé un lien. Et il y a beaucoup de choses dans le produit qui sont directement inspirées de ce qu'ils nous ont demandé. Et peut-être pour expliquer ce qu'on fait... et d'où on vient aussi. Donc Finari, c'est une application web et une application mobile qui permet de suivre tout son patrimoine de façon automatique et hyper simple. Donc concrètement, on va pouvoir connecter 20 000 banques et plateformes d'investissement, ajouter toutes les classes d'actifs, donc l'immobilier évidemment qui était cher, mais aussi les cryptos, les métaux précieux, l'investissement en startup que tu as peut-être fait. Évidemment, ça c'est la partie active, mais il y a aussi la partie passive avec les emprunts, mais aussi tes cartes de crédit. Et l'idée, c'est qu'on donne tout simplement une visibilité sur combien tu possèdes. Ça paraît bête, mais en fait, dans la réalité, on a tous utilisé des Excel pour faire tout ça. Ou pas, on ne l'a pas fait du tout, encore pire. On allait sur une dizaine de sites, une quinzaine de sites différents pour aller voir combien on avait sur l'épargne salariale, combien on avait sur le compte courant, combien on avait sur le compte à l'étranger qu'on a peut-être encore. Là, tout est consolidé et c'est sécurisé. Et donc, c'est vraiment ça l'origine, la genèse de Finari, c'est de dire on va juste créer un dashboard qui permet de suivre son patrimoine et connaître son patrimoine brut, net, à un instant T. Et pourquoi on a créé ça? Donc on est deux, avec aussi un autre Julien, parce qu'en fait on avait ce problème. On avait ce problème d'avoir des investissements un peu partout, et on s'est dit c'est quand même pas possible qu'en 2020, c'était en 2020, on soit encore en train de faire des Google Sheets. Et franchement ça nous emmerdait parce qu'on se disait notre Google Sheet... il est hyper flexible, c'est vrai, on met ce qu'on veut dedans. Mais par contre, il est aussi intelligent qu'on le rend. C'est-à-dire que si on ne met pas les bonnes formules pour aller faire des calculs, pour nous donner de l'information en plus, personne ne nous donnera cette information. Du coup, on est allé voir des banquiers privés. On leur a dit, donnez-nous vos super outils, parce que vous êtes une super banque privée. Et là, en fait, il n'y avait rien en face. Il y avait papier, crayon et de l'Excel aussi. On s'est dit, c'est quand même hallucinant, les gens qui sont les plus fortunés, ils ont accès à rien et ils reçoivent des reports par email. Qui ont été rédigés, qui ont été faits manuellement par des gens.
C'est pour ça que ça se paye. C'est pour ça que ça se paye.
C'est pour ça que, exactement. Parce qu'ils ont des armées de gens, et ça, ils le disent pas, mais ils ont vraiment des armées de personnes qui vont manuellement retraiter toutes les données, qui vont aller se connecter manuellement sur tous les sites d'assurance vie, les comptes bancaires, etc. Et ça, c'est la partie,
pour faire un dashboard qui est souvent peu lu, d'ailleurs.
Pour faire un dashboard que personne ne lit, parce qu'en fait, ils vont regarder en deux secondes où ils en sont. Et surtout, ça, ça marche pour les valeurs, pour les comptes bancaires ou pour les titres, ce qui est coté. Mais l'immobilier, ils vont pas aller faire une estimation immobilière tous les mois. En fait, ils mettent jamais à jour tous ces trucs-là. Donc, on n'a pas trouvé de solution. Donc, on l'a codé pour nous. Et donc, Finari, concrètement, ça s'appelait pas Finari au début, mais c'est né en deux jours. On l'a fait vraiment à la va-vite. On s'est dit ça marche, on pouvait connecter déjà des comptes bancaires, de la crypto, ajouter de l'immobilier, et je crois qu'on pouvait déjà ajouter des startups. On l'a envoyé à quelques amis, et en fait là on a commencé à voir des gens s'inscrire qu'on ne connaissait pas et connecter leurs comptes et rajouter leurs actifs. On s'est dit c'est quand même intéressant comme signal faible.
Carrément.
Et ensuite on a été pris dans un incubateur qui s'appelle Y Combinator, complètement par hasard. On n'avait pas du tout prévu de faire ça. Et là, ça a vraiment accéléré l'aventure, puisqu'on a levé des fonds, on est allé aux États-Unis pour faire cet incubateur qui a notamment incubé Coinbase, Airbnb, Stripe.
Ouais, très connu, Y Combinator, sur la Silicon Valley. J'avais fait d'ailleurs un épisode avec Gabriel Jarrosson de Léonis Investissement, qui est fan de Y Combinator et des startups qui
aiment bien aller sourcer chez eux.
Tout à fait.
Et je le salue, Gabriel. Et C'est vrai que voilà, depuis Finari, bah, aujourd'hui c'est 25 personnes, on a levé 15 millions d'euros, on a combien, 180 000 utilisateurs.
Ouais. Donc, ça 180 000, c'est fou, hein. Je me rappelle au début quand on discutait, c'était quelques milliers.
Ouais, c'était quelques milliers. Ouais. Ouais, donc ça a beaucoup, beaucoup grossi. Ouais. Ça a beaucoup grossi notamment parce que l'immobilier, c'est une partie importante du patrimoine des Français. Et aujourd'hui, bah, on offre des choses qui plaisent. On offre l'estimation automatique d'un bien. Donc, on va mettre à jour cette estimation.
On va s'en parler de ça d'ailleurs après sur les algos que vous utilisez là-dessus, les critères, etc. Ouais.
Donc, ça, c'est vraiment important. Et la vision, enfin, où est-ce qu'on veut aller? En fait, pour moi, et on en parlait un peu en amont, le suivi de patrimoine, c'est pas la finalité. C'est-à-dire que suivre son patrimoine, c'est bien, mais c'est juste un moyen. Le but, c'est quand même d'atteindre ses objectifs. Il y en a un, il veut être indépendant financièrement, l'autre, il veut s'acheter, je sais pas, une maison, l'autre, il veut s'acheter une Porsche. Donc, le but, c'est de mettre les investissements ou son argent au service de ses objectifs. Et donc, le suivi de patrimoine, c'est le tableau de bord qui va permettre d'atteindre ses objectifs. Et donc, on est en train de travailler vraiment sur la suite. Et donc, nous, concrètement, sur Finari, là, dans les mois qui arrivent, on va donner des recommandations personnalisées. On l'a déjà fait par touche, mais là, on va vraiment faire un pas en avant énorme. Et donc, on va utiliser toutes les données qui ont été connectées et qui sont suivies pour donner de la reco qui est personnalisée et ensuite aussi donner accès à de l'investissement qui est inaccessible par nature. Et donc, on va utiliser en fait la puissance de frappe qu'on a en termes d'utilisateurs pour aller négocier des investissements et les mettre à disposition de notre communauté. Et donc, Finari, bientôt, on pourra suivre son patrimoine, recevoir des recommandations personnalisées, comme on pourrait les recevoir chez un banquier privé. Sauf que le banquier privé, il demande qu'on ait 10 millions d'euros en actifs financiers pour aller chez lui, donc ça fait quand même cher le ticket d'entrée. Et aussi, on pourra avoir accès à des opportunités d'investissement. Et donc, on a vraiment la vision holistique du suivi de patrimoine, l'investissement et le conseil.
Tu parles de quel type d'investissement quand tu envisages ça justement ?
Là, on regarde on travaille sur deux produits en particulier, la crypto. Mm-hmm. Parce que la crypto, en fait, on a vu que c'était une part très faible dans le patrimoine de nos utilisateurs, que c'était la classe active dans laquelle ils voulaient le plus investir dans les années à venir, mais qu'il y avait quand même des gros sujets de confiance, d'accessibilité, aussi de savoir dans quoi il faut investir. Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ? Est-ce qu'il faut acheter la dernière crypto qui vient de sortir ? Comment il faut investir ? Quel pourcentage de mon allocation globale je dois allouer à la crypto ? Donc on pense qu'on peut amener une solution là-dessus. Donc on travaille sur un plan d'épargne crypto 100% automatisé. Donc on pourra vraiment créer son ETF crypto sur mesure et automatiser tout le processus.
Excellent ça. Avec du coup une possibilité d'investir en mode DCA tous les mois.
Ça sera du DCA les mois, toutes les semaines. Et il y aura des petites particularités qui sont uniques sur le marché, dont je ne peux pas encore parler, mais qui rendront le produit vraiment compétitif et les frais seront imbattables.
Ok. Parce que ça aussi, c'est une autre bataille que tu mènes avec Finari. Hein.
C'est une de mes batailles préférées.
Ouais, c'est ça, sur les frais
associés. Je fais pas que des amis, mais.
Les frais associés à tous les produits, ouais, j'imagine, en termes de com, c'est sûr que c'est plus compliqué d'aller négocier des deals après avec des gros faiseurs. Hein.
Ouais, ou alors c'est facile, mais parce qu'en fait, les faits parlent pour eux-mêmes, quoi. Tu peux pas nier les mathématiques qui sont derrière le calcul des frais. Mais donc les frais, effectivement, nous, quand on propose un produit d'investissement, vu que c'est un cheval de bataille, on peut pas dire bon, ce produit-là, on le bourre de frais.
Ah ouais, ouais.
Et l'autre classe d'actifs qui est vraiment à l'opposé, la crypto, c'est accessible à tous, le but, c'est de démocratiser aussi la finance, de la décentraliser. On a un produit qui s'appelle le private equity et on est en train de négocier l'accès à un fonds exclusif. Et donc là, on va donner accès à moins d'utilisateurs parce que le ticket d'entrée du private equity, et là, je parle du vrai private equity, hein, c'est 100 000 euros par investisseur, c'est quand même beaucoup. Il faut être un investisseur qualifié, professionnel.
Ouais.
Et là, on donnera accès à un fonds unique, personne ne le propose. C'est un fonds qui est uniquement proposé à des grandes fortunes. Et donc,
avec un ticket à 100 000, ou alors vous allez fragmenter ce ticket, vous ?
Alors, le but, on va commencer par un ticket à 100 000, et le but après, c'est de trouver de l'ingénierie patrimoniale qui permette de fragmenter ça et de donner accès à tout le monde.
Okay.
Aujourd'hui, c'est pas encore possible. Maintenant, le marché du private equity, il est en train de bouger très vite. Et il y a notamment une réglementation qui s'appelle LTIF 2.0. Enfin, en fait, ça existait déjà, LTIF, mais c'est un type de fonds. Il y a eu LTIF 1, c'était un flop monumental, personne n'en voulait. LTIF 2, le législateur a revu sa copie et concrètement, LTIF 2 va donner accès au private equity à partir de 1 euro. Il faut juste que le fonds soit labellisé LTIF.
Okay.
Et il y a déjà tous les grands managers, BlackRock, tous les gérants de la place qui sont en train de labelliser leurs fonds. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. C'est pas encore live en fait. C'est quelque chose qui est en préparation, mais ça devrait partir d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est une innovation qui pourrait être majeure, vu que concrètement, on pourra accéder à des top fonds à partir de 1 euro.
C'est fou.
Donc ouais. Voilà. Mais c'est un marché naissant. Est-ce que ça seront les mêmes rendements qu'on constate sur le vrai private equity avec des tickets à 100 000 Bah, ça faudra attendre quelques années probablement pour le savoir.
Je fais une parenthèse sur le private equity parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui savent pas forcément ce que c'est. Donc tu me corriges si je me trompe, mais le private equity c'est le fait d'investir dans des sociétés qui sont non cotées. Typiquement, je vulgarise le truc, votre boulanger du coin, si vous voulez investir chez lui, ça reste du private equity finalement. Ou vous voulez investir, je sais pas moi, chez une boîte qui est non cotée, de la place parisienne, voilà, vous pouvez investir dedans.
Une belle PME.
Une belle PME, etc. Et une boîte de la tech, par exemple, qui va jamais se mettre en bourse, ou en tout cas peut-être pas tout de suite, bah, vous pouvez rentrer au capital de cette boîte via soit un fonds de private equity, soit des fonds en direct. Moi, je suis rentré moi-même dans des boîtes en direct au capital, avec des tickets plus ou moins importants d'ailleurs, hein, ça peut se faire aussi. Mais par contre, il faut un peu de réseau, effectivement, et puis il faut aussi avoir la confiance des fondateurs, parce qu'ils aiment pas trop avoir n'importe qui autour de la table aussi et démultiplier les interlocuteurs. Donc souvent ça se fait via des fonds parce que ça leur permet d'avoir un seul interlocuteur autour de la table et pas 1000 investisseurs autour de la table. Voilà.
C'est ça. Le private equity, c'est enfin la particularité des fonds de private equity, en tout cas des top fonds, c'est qu'ils vont vraiment apporter une composante d'ingénierie financière très importante. Et donc ils vont faire des opérations où, en fait, ils vont endetter la boîte qu'ils vont racheter. Et c'est vraiment, il faut voir ça comme un accélérateur de particules. Ils vont prendre la boîte et leur but, c'est de la transformer radicalement en 5 ans pour la revendre. Parce que le but du private equity, c'est d'acheter et de revendre.
Bien sûr.
Et les TRI visés, je pense que le TRI, c'est un concept que tu regardes beaucoup en IMO. Les top managers visent du TRI entre 15 et 20%. Et ils affichent des TRI. Le TRI à 20%, ça existe en private equity.
En fait, le TRI, pour simplifier, pour ceux qui maîtrisent pas forcément le sujet, mais je ferai une capsule sur ça. J'avais fait une capsule déjà entre la différence entre le rendement et la rentabilité, ce qui est un peu similaire. Le TRI, c'est le taux de rendement interne, et ça vous permet juste de calculer un rendement annualisé à une horizon donnée, en prenant en compte notamment tous les flux, mais également les plus-values latentes à la sortie. Donc ça demande un peu de spéculation, et voilà, parce qu'il faut se projeter.
Avoir des hypothèses, ouais.
Voilà, mais vous pouvez le faire en IMO. Si vous achetez un bien à 100 000 et que vous prévoyez de le revendre en 10 ans 150 000, ces 50 000 de marge-là, elles vont venir réintégrer un taux de rendement interne, ce qui n'est pas le cas si vous prenez que le taux de rendement qui est très court-termiste, puisque vous prendrez que les loyers. Mais je vous invite à réécouter la capsule, je ne sais plus quel numéro, mais rendement vs rentabilité, mais c'est très intéressant, et effectivement, ça te permet de comparer clairement, par exemple, combien de rendement tu as sur tes fonds propres en immobilier, par exemple, quand tu investis 50 000 dans un projet immobilier, par rapport à si tu les investissais dans du private equity ou simplement sur ton PEA, sur un ETF, quoi.
Voilà. Exactement. Et je pense que le private equity, ça fait un peu rêver, tout le monde en parle en ce moment. Ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que c'est une classe d'actifs qui n'est pas liquide. Comme tu l'as dit, c'est une boîte privée. Donc en fait, on ne peut pas dire du jour au lendemain, tiens, maintenant j'ai envie de la vendre.
Tu ne maîtrises pas ta sortie.
Tu ne maîtrises pas la sortie. Ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que, et ce que je dis tout le temps, c'est que le patrimoine, faut voir ça comme une pyramide. Une pyramide, on la construit pas en commençant en haut, on commence par le socle. Et donc, on monte progressivement. Et la base d'une pyramide, c'est déjà de gagner plus qu'on ne dépense. Une fois qu'on a ça, on a des finances saines. Ensuite, faut se constituer un matelas de sécurité pour, en cas de coup dur, pouvoir parer aux éventualités. 3-6 mois de dépenses, ça dépend en fonction de l'appétence au risque. Et après, la base d'une stratégie patrimoniale, c'est immobilier et actions. Et franchement, si on fait déjà ça, on peut monter un patrimoine à des millions, voire des dizaines de millions d'euros, et jamais avoir besoin de faire du private equity. Le private equity, c'est l'apanage des grandes fortunes, parce que, effectivement, ça rapporte beaucoup plus. Mais quelqu'un qui a quelques centaines de milliers et quelques dizaines de milliers d'euros, franchement, il n'a pas besoin de parler private equity, parce que le TRI du marché actions, il est énorme. On est sur du 9-10% depuis 100 ans, et en plus, c'est un marché liquide. C'est-à-dire, le jour où on a envie de sortir du marché, on clique et on a le cash.
Ça, c'est sûr.
Ça a une valeur, surtout dans un marché comme le marché actuel, où la liquidité a quand même une prime.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et si, c'est intéressant que tu mettes effectivement l'immobilier dans la base de la pyramide, enfin, une des bases, en tout cas, des fondations de la pyramide. Si on fait un focus, justement, sur l'immobilier, moi, je vois bien ce que t'apportes avec Finari, mais peut-être pas tous les auditeurs. Est-ce que tu peux me dire ce que vous apportez pour un investisseur immobilier comme ceux qui nous écoutent ou comme moi, avec Finari, justement, dans le quotidien, quoi, et dans le suivi?
Alors, on apporte plusieurs choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on s'est parlé là au tout début. La première chose, c'est qu'on va pouvoir suivre ses biens sur Finari. Donc, on va pouvoir dire, moi, j'ai un bien à Toulouse, à telle adresse. Le bien, on va pouvoir donner toutes les caractéristiques. Donc, c'est vraiment très précis. L'étage, la qualité de la cuisine, l'état aussi de la salle de bain, des fenêtres. Et en fait, avec ça, nous, on est plugué à un partenaire qui s'appelle Priceable. Priceable va nous donner une estimation hebdomadaire de la valeur de ce bien. Donc concrètement, on ajoute son bien à Finari et toutes les semaines, nous, on va aller vérifier la valeur marché de ce bien. La valeur marché de ce bien, elle est Priceable la calcule avec la base de données des notaires, mais aussi les tendances. Ils vont regarder les annonces. Ils ont un algo pour lisser ça. Ils vont regarder les taux d'intérêt. Ils vont faire des estimations. Enfin, c'est leur popote, quoi.
Ouais.
C'est vraiment un outil de pro à la base. C'est pas du tout. Hein. On est les premiers à l'utiliser et à les mettre à disposition du grand public. Donc, en tout cas, on a la valeur en live de ces biens immobiliers. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'évidemment, l'immobilier, c'est du levier. Et donc, on peut aussi ajouter ses passifs, donc ses emprunts sur Finari, et on peut les lier. Donc, on peut voir où est-ce qu'on en est en termes de remboursement du bien, remboursement de l'emprunt, quel pourcentage on détient vraiment du bien. Vu qu'on a l'emprunt et qu'on sait aussi, parce que l'utilisateur peut renseigner si c'est un bien locatif, le loyer, les charges, etc. On peut calculer le TRI, le rendement. En gros, on a vraiment son dashboard où on voit combien vaut le bien, quelle est la renta, quel est l'emprunt associé, où est-ce que j'en suis dans l'emprunt. On va aller plus loin parce qu'on va aussi bientôt regarder si l'emprunt, en fait, c'est un bon deal. Est-ce qu'on peut renégocier l'emprunt? Est-ce qu'on peut renégocier l'assurance emprunteur? Je pense que c'est un truc que tu regardes pas mal parce que il y a souvent des grosses économies.
Ah, carrément.
Tu vois, sur un emprunt à 20 ans, sur plusieurs centaines de milliers d'euros, si c'est l'assurance maison de la banque, souvent, c'est pas terrible. Donc,
ouais, t'es souvent entre 0,35 et 0,40 sur une assurance quand t'as une trentaine d'années, si c'est l'assurance banque.
Ouais.
Et puis si tu délègues, t'es plutôt à 0,10. Donc ça fait quand même 0,3 points que tu peux gagner.
30 points de base, on parle de dizaines de milliers d'euros, tu vois, sur des gros emprunts. Donc c'est intéressant. Un autre truc qu'on affiche, et ça c'est tout récent, c'est que sur l'application, en fait, on peut voir l'étendue des prix dans la zone dans laquelle est notre bien. Donc on peut voir la valeur au mètre carré, le prix au mètre carré de notre bien actuel, mais on peut aussi voir où est-ce que se situe le marché. Donc on va voir une fourchette concrètement de ce qu'offre le marché. On va aussi indiquer l'indice de confiance. Est-ce qu'on pense que l'estimation actuellement qu'on propose, elle est fiable? Si c'est un bien à Paris ou à Toulouse dans une zone hyper dense, bien sûr qu'on est confiant. Si maintenant c'est à la campagne dans une rue où il y a 3 maisons au kilomètre, ben on préfère dire qu'on n'est pas sûr. Donc aussi l'utilisateur pourra toujours mettre sa propre estimation parce que la réalité c'est que, et tu le sais, l'estimation immobilière c'est une science inexacte. Chacun sait au final mieux que n'importe quel algorithme combien vaut un bien.
C'est sûr.
Et on le saura de toute façon le jour où on le vendra puisque ça, c'est l'acheteur qui nous dira qu'est-ce que le marché est prêt à payer pour ça.
Et d'ailleurs, vous pouvez intégrer les prix de vente réel des biens. Par exemple, si j'ai un bien en portefeuille sur Finari, demain je le vends, je peux dire à combien je l'ai vendu, ça peut venir alimenter votre base?
Alors, c'est un bon point. En fait, on va le récupérer puisque Priceable va récupérer
sur
la transaction.
Ouais.
Et en gros, mécaniquement, ça profite.
Mais par exemple, les bases type DVF,
elles ont un lag. Ouais.
C'est très long, quoi.
C'est très long. Mais c'est pour ça qu'eux, ils ont des deals avec des agences pour que les agences leur remontent les transactions en direct.
Comme meilleur agent, quoi.
Comme meilleur agent. Les agences partenaires. Tous ces tools, enfin, tous ces prestataires ont la même technique, c'est de dire aux agences, bon, moi, je vous donne de la data, mais par contre, vous m'en donnez aussi. Donc, il y a une transaction, vous me la donnez tout de suite au lieu que je la découvre dans la base de données des notaires avec 9 mois de décalage.
Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la base de données des notaires, elle est alimentée donc par les notaires, mais il faut que le bien soit passé en publicité foncière. Et ça peut prendre un an et demi parfois, quoi. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une grosse... Là, par exemple, aujourd'hui, là, comme on est dans une conjoncture un peu particulière, les prix que vous aviez il y a 6 mois, c'est plus les mêmes que vous aurez dans 6 mois.
Donc il y a eu de la grosse variation sur Finari. Ouais. Les utilisateurs étaient très surpris parce qu'ils disaient, mais attendez, moi je vois encore des annonces à des prix qui sont complètement survalorisés. Parce que je pense que les annonces se basent aussi sur les mauvais critères.
Ouais.
Là, nous, on le voit clairement, il y a une baisse des prix dans certaines zones. Il y a aussi une hausse des prix dans d'autres zones qui sont très, très quali. Mais en tout et pour tout, on est plutôt sur la fin d'un marché très haussier plutôt que sur une accélération. Là, on sent quand même l'effet des taux chez nos utilisateurs. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on ne voit pas vraiment de ralentissement, d'envie de faire des projets immobiliers. Mais les gens ont plus de mal à avoir des crédits. Et les taux ont énormément augmenté. Il y a un an ou deux, tout le monde avait des taux à 1, 1,5 max. Aujourd'hui, les taux, les emprunts qui rentrent en ce moment sur Finari, c'est du 3%. C'est du 3, 3,5, et donc ça n'a plus rien à voir.
Et tu vois, je l'ai calculé pour des clients qu'on accompagne. Là, je fais beaucoup de simulations et j'ai calculé que grosso modo, si tu empruntes sur 20 ans, ça te coûte aujourd'hui à peu près 100 € de plus par tranche de 100 000 euros. 100 € de plus par mois. Par tranche de 100 000 euros. Donc, t'imagines ta mensualité, elle passe de peut-être 400 à 500, quoi. Tu vois, c'est quand même monstrueux, quoi. Ça veut dire que si t'as eu un cash flow à 100 euros sur ce bien-là, aujourd'hui, il est juste absorbé juste par l'augmentation des taux.
Bah, tu vois, c'est marrant parce que j'ai fait une opération il y a 2-3 ans. Et d'ailleurs, je l'ai détaillé sur Twitter parce que je raconte un peu aussi l'envers du décor. Je pense que tu le fais tout le temps, de ce qui est vraiment l'immobilier.
Bien sûr.
D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque et je regardais ton Instagram, ça me faisait rire parce que tu montrais la réalité de, bah oui, c'est des galères tout le temps, tout le temps des problèmes.
Ça t'a pas toujours rire, moi, mais c'est ça.
Ouais, là, non, ça, fait, si, en vrai, ça dépend. C'est, mais en tout cas, ça m'interpellait parce que je me disais, tiens, enfin quelqu'un qui dit... D'ailleurs, on en avait parlé, tu m'avais dit que, bah, évidemment qu'il y avait tout le temps des problèmes avec des locataires et tout, mais en fait, le but, c'était aussi d'avoir un parc important pour pouvoir compenser. Et donc, j'ai fait le calcul de me dire, qu'est-ce qui se passe si j'emprunte aujourd'hui, pour la même opération, ben en fait, on passe d'une opération cash flow positif à une opération où je dois mettre de ma poche.
Ouais.
Est-ce que ça change fondamentalement le deal? Pas vraiment, je pense, parce que quelque part, je profitais du levier, mais c'est plus la même opération. Faire une opération cash flow positif maintenant,
ça sera plus long, en fait, parce que le capital sera remboursé de manière plus longue qu'effectivement.
Exactement.
Disons que si t'arbitres à 10 ans, ben oui, t'auras remboursé moins de capital que si t'arbitrais à 10 ans un bien que t'as acheté il y a 2 ans, quoi.
Exactement. Ouais. Et en plus, si t'ajoutes à ça ton calcul de TRI que en fait le prix de l'immobilier il va plus trop augmenter, ça commence à devenir un peu plus serré.
Plus l'effort d'épargne que tu fais qui vient s'ajouter aussi dans tes flux, négatifs.
Et donc du coup c'est vraiment un truc qui est intéressant, et tu vois on en parle beaucoup sur la communauté, et franchement je le dis tout le temps, et d'ailleurs toi tu l'avais très bien expliqué durant le talk qu'on avait fait, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Si tu veux faire de l'immobilier rentable, bah il faut que tu ailles transformer un bien. Et si tu mets un intermédiaire qui va t'accompagner, bah bien sûr que tu auras moins de rentable, mais en même temps tu travailles moins. Donc si tu veux faire l'immobilier le plus rentable, ce que tout le monde veut faire, tous les primo investisseurs veulent faire l'opération la plus rentable du siècle, bah ok, mais il faut que tu sources le bien toi-même, il faut que tu fasses les travaux toi-même, il faut que tu fasses le locataire toi-même, il faut que tu le trouves, faut que tu
prennes le risque d'aller dans une ville où c'est pas forcément très tendu, donc t'as plus de risques de d'illiquidité à la sortie, plus de risques de vacances locatives aussi, plus de risques de typologie des locataires un peu moins sexy. Enfin, tu vois, ça va souvent aussi avec. C'est tout un écosystème.
Tout est lié. Et c'est souvent ce qu'on dit. Tu vois, ce qui est assez intéressant, c'est que on pense que le marché, surtout le marché action, il est un peu fou, quoi. Il fait un peu n'importe quoi. Les prix, on ne sait pas trop si c'est vraiment réel. Mais non, en fait, le marché, il est hyper efficient. Donc, si le marché immobilier aujourd'hui, il price un bien à 200 000, bah, c'est probablement parce que c'est la vraie valeur, parce que en gros c'est ça la réalité du marché. Donc le marché est très efficient. Par contre, en immobilier, je pense qu'il y a une prime à l'expertise qui est énorme.
Oui.
Et en plus, on a la chance quand même. Tu vois, c'est marrant parce que j'étais avec un ami franco-anglais, mais qui vit au Mexique, qui vient de s'acheter sa maison, et il me demandait c'est quoi les taux en France en ce moment. Je lui disais 3, il me disait mais c'est 3, c'est génial. Moi j'emprunte à 10.
Mais oui.
J'emprunte à 10 dans un pays en plus qui a une monnaie instable, etc. Donc faut quand même pas oublier, et en plus c'est taux variable. Donc faut pas oublier que nous on a quand même à 3 un système de taux fixe qui est magique. Si on a un CDI, ou même si on n'a pas de CDI, c'est plus difficile, mais on peut quand même s'enrichir. Donc c'est un levier, c'est un ascenseur social incroyable. Mais il y a pas de recette magique, et franchement, il y a pas de recette magique dans aucun investissement. C'est si on veut s'enrichir en bourse, bah ça va prendre du temps. Si on veut, oui, on peut faire x100 en achetant une action, mais c'est hyper spéculatif, on peut tout perdre. Donc en fait, tout est une question de mesure. Et je trouve que la communauté Finari, du coup, c'est un bon endroit pour le voir ça, parce que on a beaucoup de gens qui viennent poser des questions, qui ne connaissent pas grand chose, on sent qu'ils cherchent un peu la martingale, la formule magique, et les réponses, c'est toujours, il n'y a pas de formule magique. Par contre, il y a des basiques. Et si tu suis les basiques, ça va se passer plutôt comme ça. Et c'est généralement, ça se passe plutôt bien.
Mais c'est ce qui est intéressant dans la communauté Finari, c'est que tu vas pouvoir échanger avec des mecs qui ont des millions d'euros de patrimoine net, d'autres qui ont peut-être juste que quelques dizaines de milliers, mais qui utilisent quand même l'outil parce qu'ils ont une appétence, tu vois, à la gestion de l'épargne, à l'investissement, etc. Et donc, les uns peuvent s'enrichir des autres. Tu vois, je trouve que c'est super, super intéressant aussi parce que à chaque step de ta vie d'investisseur, t'as toujours des objectifs différents et tes horizons, ils changent aussi. Tu te rends compte que ce que t'as prévu il y a 5 ans, au final, aujourd'hui, c'est plus du tout même si t'as prévu un truc il y a 5 ans pour 10 ans après, tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans 5 ans, c'est pas du tout là où t'avais envie d'être il y a 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, t'es toujours en train de, avec cette certaine agilité, en train de retrouver des nouveaux types d'investissement ou d'arbitrer, etc. Et c'est super intéressant de s'enrichir de gens qui l'ont déjà fait avant toi. Tu vois? Je prends toujours un exemple sur la partie immobilier. C'est, quand t'achètes un bien immobilier de manière tout à fait patrimoniale, que t'as, on va dire, une quarantaine d'années, tu te dis, on va acheter un studio pour que notre fille ou notre fils fasse ses études dedans, tu vois, pour l'héberger pendant qu'elle fera ses études. Et ça, tu te rends compte qu'en fait, ça n'existe quasiment jamais. Pourtant, on a tous, tu vois, en tête des gens qui ont fait ça, qui ont voulu faire ça pour les enfants. Oui, comme ça, peut-être que ça pourra servir. On l'aura payé, on paiera pas le loyer pour elle quand elle fera ses études et tout ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est une preuve que ce que tu avais prévu au départ, c'est jamais ce qui arrive au final. Voilà. Et ça, moi, je le vois tous les jours sur la partie immobilier. On est sans cesse en train de réajuster des stratégies pour notre propre compte, mais aussi pour le compte de nos clients, quoi. Très clairement. Il y a un truc qui est pas mal sur Finari, que je trouve sur la partie immobilier, pour moi, qui est, tu vois, qui détient des biens en nom propre, qui détient des biens avec des SCI, avec des SAS éventuellement, etc. C'est de pouvoir fragmenter tout ça maintenant dans l'outil, ce qui n'était pas le cas effectivement au tout début.
Pas du tout.
Mais c'est normal, hein. Le but, c'est que l'outil soit évolutif, parce que s'il avait été super puissant au départ et qu'il se passe plus rien après, c'est pas non plus l'essence même d'un outil. Hein,
on aurait mis 3 ans à le sortir, tu vois, au lieu de 3 jours.
Déjà, et puis qu'est-ce que vous apportez après comme évolution aussi, tu vois,
c'est toujours, rien. Voilà. Et surtout, on n'aurait pas su qu'il fallait faire ça. Parce que c'est toi qui nous a dit, moi j'ai besoin de ça. Et en fait, quand il y a 1000 personnes qui disent la même chose, tu dis, ouais, c'est un signal fort.
Ouais.
Plutôt que de te dire dans ta petite chambre, en fait, moi j'ai tout compris au marché, voilà ce que veut le marché. Mais en fait, ça, c'est une grosse boîte. Ils sortent le produit, c'est un flop parce qu'ils n'ont parlé à personne.
C'est exactement
ça. Tu regardes les banques, ce qu'elles sortent comme produit, c'est Orange Bank. Regarde Orange Bank.
Ouais.
Ils se sont dit, on va refaire une banque, on va expliquer aux petites startups comment on fait une banque, une néobanque. Ben, ça, c'est un flop qui a coûté des milliards parce qu'ils n'ont jamais parlé à un utilisateur. Ils n'ont jamais posé la question, qu'est-ce que tu veux en fait? Donc, ouais, pas mal d'évolutions depuis le début.
Mais ça, c'est très chouette, tu vois. Moi, j'ai créé un pool famille, tu vois. Donc, il y a ma femme qui détient des biens en nom propre. Il y a mon fils qui détient des parts sociales de la SCI. Il y a moi qui suis là. Puis, il y a aussi une consolidation famille, parce que c'est intéressant, de consolider au niveau famille. Parce que souvent, quand tu investis en famille, c'est quand même un objectif commun, tu vois, avec des horizons, des objectifs communs. Et je trouve ça super chouette parce que tu peux voir vraiment quel est l'enrichissement de chaque personne et aussi du pool d'investisseurs qui est dans ta famille. Et ça, je trouve ça hyper chouette. C'est hyper fluide sur l'application. Ça se gère super bien, les parts de détention, etc. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment un gros point positif pour l'investisseur immobilier que je suis, et je pense que je suis pas le seul à trouver ça cool, quoi.
C'est sûr, et ça me fait très plaisir que tu le dis, et je le répéterai à l'équipe, je leur demanderai d'écouter le podcast.
Voilà.
Et tu vois, c'est intéressant parce qu'on a commencé par le mode famille, et assez rapidement les gens nous ont dit, mais attendez, moi j'ai une famille parce que je suis une personne physique, mais je suis aussi une personne morale. En tout cas, je suis bénéficiaire effectif d'une personne morale, d'une société ou de plusieurs sociétés. Et du coup, là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on travaille alors sur des améliorations du mode famille, évidemment, en prenant les retours des utilisateurs, mais aussi sur un mode holding. Et donc, le mode holding, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, il y a Julien, la personne physique, mais il y a aussi Julien, la personne ou les personnes morales, en tout cas, dont Julien est le bénéficiaire effectif ou actionnaire. Et du coup, l'idée, c'est à terme d'avoir vraiment le schéma patrimonial global pour que tu puisses tout voir d'un coup. Donc, qui a quoi en direct, en indirect, et en plus de ça, que tu puisses sortir des rapports, et ça on n'en a pas parlé tout à l'heure mais je voulais te le dire, maintenant on peut sortir un PDF de ton patrimoine, et je pense que ça c'est indispensable. Donc en un clic tu sors le PDF de ton patrimoine avec actifs, passifs, tes revenus, tout ce que tu veux. D'ailleurs tu peux exclure aussi des choses que tu ne veux pas que ton banquier sache, mais en gros tu vas donner ce rapport patrimonial à ton banquier pour qu'il puisse t'octroyer un crédit. Parce que quand tu fais un crédit, je pense que tu en as fait des milliards, le banquier va toujours te poser les mêmes questions, il va te demander la liste de ton patrimoine, il va te demander les contrats d'assurance vie, les machins, les trucs.
Une fiche patrimoniale, la fameuse fiche patrimoniale.
La fameuse fiche patrimoniale, chaque banque. Alors, tu vois, nous on s'est dit, bon bah il doit y avoir un format standard. Non, en fait, il y a un milliard de formats, c'est n'importe quoi. Donc nous, on a créé notre standard, tu peux le générer en un clic. Quand il y aura aussi le mode holding, en fait, tu pourras non seulement générer l'état des lieux de tes finances, mais aussi le schéma de tes sociétés pour que ton banquier, mais aussi ton comptable, ton avocat, puissent eux faire leur travail derrière. Donc en gros, on veut vraiment aider l'utilisateur et l'investisseur pour qu'il soit mieux équipé et qu'il aille à l'essentiel et qu'il passe pas du temps à, tu vois, faire des choses comme ça, comme remplir une fiche patrimoniale pour la banque X ou Y.
Ça, c'est vraiment génial parce que, d'ailleurs, sur le talk, j'avais partagé mon organigramme, tu vois, qui a pas mal évolué encore depuis.
Qui a beaucoup interpellé. Voilà. Alors, je pense que l'organigramme de Julien Calamotte, tu vois, on me le demande à peu près 3 fois par jour, donc c'est incroyable. Même maintenant, quoi, hein, c'est un truc.
Mais, il a évolué, je pourrais te le mettre à jour, si tu veux. Mais c'est chiant, sur YouTube, on peut pas trop mettre les vidéos.
Non, mais genre, partager sur notre communauté. Ça serait trop marrant.
Mais, après, bon, en tout cas, ça ne concerne que moi, hein. Je veux dire, c'est mon truc, hein. C'est pas, je suis ni fiscaliste, ni juriste, etc. Mais, en tout cas, j'ai construit ça. Et non, mais la fiche patrimoniale, honnêtement, c'est vraiment une plaie à chaque fois que tu veux. En fait, ils s'en servent pour prendre des cautions personnelles, hein, évidemment, sur les prêts. C'est surtout ça qui les intéresse, voir quel est le patrimoine net, ton flot de revenus, etc. Et en fait, comment ils vont pouvoir se rémunérer s'il y a un défaut de paiement, c'est surtout ça.
Exactement.
Mais effectivement, tu vois, là, j'ai encore envoyé une fiche patrimoniale à une banque que j'avais faite sur une autre banque. Mais il n'y a même pas le logo de la banque, tu vois. C'est parce qu'il y a des banques qui ne mettent même pas leur logo. Ils me disent, ah oui, non, mais il faut refaire la fiche avec notre fiche parce que sinon, après, on n'est pas à l'aise avec ça et tout. Ouais, mais common, les gars, en fait, il faut juste que vous envoyez un truc, après vous débrouillez, au pire, vous faites la ressaisie, mais tu vois, c'est
pénible.
C'est chiant.
Bah, ouais. C'est pas une relation client, en fait. Ils savent que toi, t'es demandeur du crédit, donc ils ont quand même une position de force. Et tu vois, moi, j'ai testé avec ma propre banquière. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux un crédit. Elle a dit, OK, fiche pas à tribunal. J'ai dit, non, non, on va tester le nouveau truc que je suis en train de développer.
Ouais.
Et en fait, elle a halluciné.
Parce qu'il y a plus de formes déjà.
Il y a beaucoup plus de formes. Ouais. On indique les comptes qui sont synchronisés via l'open banking. Donc en fait, ils savent que c'est des vrais comptes avec des vrais soldes qu'on a vérifiés, etc. Enfin, en fait, ça leur fait gagner un temps fou.
Et... c'est vrai que ça peut être une petite certification, ça,
au
final.
Complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Et tu vois, moi, je vois un monde dans lequel, en fait, la banque va dire non, pas de fiche patrimoniale, allez sur Finari, générez votre attestation patrimoniale ou déclaration de patrimoine, comme on l'appelle, et vous nous l'envoyez derrière. Parce qu'en fait, bon, non seulement c'est trop bien pour vous parce que vous bénéficiez de Finari, mais en plus nous on gagne du temps parce que c'est le format standardisé. Donc on veut aussi créer un standard et je pense que ça va beaucoup aider parce que franchement c'est une perte de temps phénoménale.
Ça, c'est trop bien. Et le schéma organisationnel du coup, l'organigramme et tout ça, ça c'est prévu pour quand
C'est prévu pour cette année, je bosse dessus personnellement parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc je peux pas te donner de date et ça aussi c'est une politique chez Finari. C'est qu'on ne donne jamais de date. C'est-à-dire
que. T'as bien raison.
Franchement, c'est dur de.
C'est comme pour les travaux.
C'est comme pour les travaux, exactement. Ouais. Et tu vois, on est toujours déçu quand on donne des dates. Et moi, je préfère rien promettre, dire que je m'en occupe et un jour dire, bah voilà, ça y est, on y est, plutôt que d'annoncer que ça sera le 15 juin. Et en fait, bah, le 15 juin, il ne se passe rien parce que, bah, il y a la vie, hein, il y a les aléas de la vie qui font que c'est plus compliqué que prévu. Un tel est malade. En fait, on n'a pas réussi à le faire comme on voulait. Du coup, on préfère décaler de 15 jours. Bah, voilà. Donc, nous, on est vraiment dans un cycle. On développe très vite. Je pense que si tu es utilisateur Finari, tu le vois qu'il y a tout le temps des nouveautés. Mais par contre, on n'annonce pas les dates. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille. Donc, tu vois, c'est un sujet qui va sortir dans l'été, là. Donc, ça va être très excitant. Et le truc que je voulais te dire sur la communauté, ça, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je m'en suis rendu compte à titre personnel quand j'ai parlé avec toi. Moi, j'avais plus confiance en toi qu'en un agent IMO. Parce qu'en fait, je me disais, Julien, il est comme moi. C'est un particulier qui investit. Il est juste beaucoup plus loin que moi dans son aventure d'investisseur immobilier. Donc, je vais apprendre. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, en 2023, on a plus confiance en quelqu'un sur Internet qui a un pseudo qui est complètement débile, avec une photo complètement débile, qu'en un conseiller dont c'est le métier de donner du conseil.
Ouais.
Parce qu'en fait, on sait que le conseiller, il a envie de donner de la reco pour toucher ses coms, alors que le particulier... il est là pour partager son avis,
Je suis complètement d'accord avec toi.
Ça, c'est fou, quoi.
Par contre, ça veut dire que j'avais une photo débile ou...
Alors, toi, t'avais ta vraie photo, je crois. T'avais ta vraie photo, et d'ailleurs, ton pseudo, c'est quelque chose comme J.K. Lamotte ou un truc comme ça. Donc
maintenant, mais c'était Julien Invest, effectivement. Mais, mais maintenant, c'est Julien Calamotte. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais des événements, tu vois, des séminaires et tout ça, où je rencontrais des gens dans des apéros IMO, et parce que c'est un métier de réseau, hein, l'immobilier.
C'est un métier de réseau, ouais.
Et l'investissement aussi. Et du coup, les gens disaient, mais si, tu connais pas, c'est Julien Calamotte. Non, je connais pas. Mais si, Julien Invest. Ah ouais, d'accord, Julien Invest. Donc là, je disais, bon, c'est bon, faut pas que ce soit mon deuxième nom de famille, tu vois. Donc maintenant, je me suis mis Julien Calamotte.
Voilà, tu sais que j'avais eu du mal à trouver sur Instagram. Parce qu'à chaque fois, j'oubliais que c'était Julien Invest. Et je me disais, Et donc, mais c'est un truc important, tu vois, aussi le personal branding.
Ouais, carrément.
C'est vrai que, et c'est ce que je dis tout le temps à l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, le problème des grandes banques, c'est qu'elles sont désincarnées. Et des grandes entreprises en général, personne se dit, en rentrant dans une agence bancaire, qu'est-ce que c'est agréable, c'est génial, j'adore. Et surtout, il n'y a pas de personne qui incarne ça. Mmh. Or, on veut tous on est tous des humains, donc on préfère parler à d'autres humains, des gens qui ont des relations, des réactions normales ou qui ont au moins des réactions humaines quand on leur pose des questions. Donc, c'est vrai que nous, on fait un gros travail là-dessus. L'équipe est hyper accessible. Moi, je suis hyper accessible. Tu vois, avant que tu arrives, il y avait des gens qui me parlaient sur Twitter, qui m'envoient des mails, qui me disent, tiens, j'ai tel souci, j'ai envie de faire tel truc. C'est quoi ton avis sur tel type de LMNP? J'ai pas la réponse à tout, mais en tout cas, on est accessible et c'est aussi une partie de notre succès, c'est qu'on est à l'écoute des gens dans un monde où en fait, y a quand même beaucoup d'arrogance et c'est complexe. Tu vois, la finance, c'est un sujet qui fait peur, donc il faut rendre ça accessible.
Mais c'est vrai que tu l'incarnes bien. D'ailleurs, t'es connu sous Mounir de Finari, hein. Tu t'es mis cette particule bourgeoise au milieu.
Exactement. Mounir de Finari. Exactement. Premier de la lignée, donc.
Ouais,
tu vois...
c'est ça. Mais, c'est vrai que vous essayez quand même de démocratiser pas mal de choses. Alors, les Finari Talk sont là pour ça, hein. Franchement, c'est très chouette ce que vous faites et vous recevez des gens en plus qui ont quand même pignon sur rue, tu vois, sur leur domaine d'activité, qui sont quand même des vrais sachants.
Ouais.
Et ça, c'est important aussi parce que ça, comme tu le disais, hein, t'as n'importe qui peut prendre un pseudo, mettre n'importe quelle photo, faire des vidéos YouTube. YouTube et vendre une formation à 97€ par mois. Parce qu'il paraît que c'est psychologique, 97.
Mmh. Ah oui?
Mais ouais, il paraît.
Plus que 99.
Ouais, c'est ça. Okay. C'est le new 99. Le new 9. Et donc voilà, mais effectivement, il faut faire la part des choses. Et je trouve que chez Finari, vous avez aussi cette force de mettre en avant des gens. Et je dis pas ça parce que vous m'avez reçu, parce que en plus, c'était au tout début et vous avez reçu des gens bien plus qualifiés que moi derrière. Mais voilà, qui savent de quoi ils parlent, tu vois, qui racontent pas des conneries et qui, s'ils le savent pas, vont pas te raconter un truc juste pour te raconter un truc et meubler. Tu vois, ça, c'est vachement important.
C'est hyper important. Voilà. Et tu sais, les Finari Talks qui ont le mieux marché, c'est des gens qui n'étaient pas forcément très connus, mais qui étaient experts.
Ouais.
Et pour moi, en fait, c'est ça qui est important. Parce que la réalité, tu vois, je le fais moi-même, je vais souvent à la télé, j'ai pas toujours une opinion hyper spécifique sur chaque sujet.
Ouais.
C'est impossible.
Ouais.
Par contre, si j'invite une personne comme toi qui fait beaucoup d'immobilier, qui fait ça depuis 10 ans, bah en fait, oui, son avis va être pertinent.
Ouais.
Et les Finari Talks qui ont le mieux marché, du coup, c'est ça. Mm. Et là, tu vois, on reçoit quelqu'un la semaine prochaine, peu importe, mais ça sera sur YouTube de toute façon, qui est une avocate fiscaliste dans un des plus grands cabinets américains, qui conseille les grandes fortunes sur leur fiscalité. Est-ce qu'elle va apporter de la valeur? Oui. Parce qu'en fait, elle fait ça littéralement toute la journée. Est-ce qu'elle est connue? Non. Personne ne la connaît.
Non, mais c'est
ceux qui doivent la connaître, les grandes fortunes, eux la connaissent parce que c'est une experte. Donc c'est vraiment ça le prisme par lequel on choisit les invités, c'est expertise et pas bling bling, ils sont connus et ils vendent des formations.
De toute façon, il y a aucune corrélation en fait entre le nombre d'abonnés, hein, grosso modo, si on grossit un peu le trait, et effectivement la compétence de la personne qui est en face, qui est face caméra sur le compte, ça c'est certain. Si on revient un peu à l'outil Finari, donc on a parlé d'immobilier, je pense qu'on y voit très clair. Enfin, puis franchement, n'hésitez pas à nous poser des questions, soit à Mounir, soit à moi. Moi, je me ferai un plaisir aussi de répondre et de faire l'article de Finari si besoin, parce que vraiment, je suis utilisateur depuis quasiment le début et que j'aime cet outil qui m'a facilité énormément la vie, ne serait-ce que pour la mise à jour des tableaux d'amortissement à chaque fois. Et même si tu peux le faire sur Excel et tout ça, il y a des formules, il y a pas de souci. Mais
c'est
moins sexy aussi, quoi. Faut le dire ce qu'il y a, tu vois.
Et puis surtout, encore une fois, Excel. Ta passion, c'est pas de mettre à jour ton Excel, ta passion, c'est de faire de l'immobilier.
Bien
donc, tu as envie de passer plus de temps. Donc, nous, on te rend juste du temps.
Ouais.
Et le temps, bah, tu vois, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as dit. Tu m'avais dit, moi, ça me coûte tant par mois de mettre à jour mes data.
Ouais.
Ce temps-là, je pourrais le mettre machin. Du coup, je serais prêt à payer tant.
Ouais.
Je m'étais dit, mais oui, c'est ça le mindset qu'il faut avoir. Donc, c'est ça le mindset.
Nous,
on te rend du temps.
Enfin, voilà, aucun doute sur le fait que ça fait vraiment gagner du temps et que c'est vraiment utile aussi, je pense, pour avoir une vision assez concrète de ton patrimoine, chose que t'as pas forcément quand c'est juste du noir sur blanc sur un fichier Excel, tu vois. Là, t'as une vision assez concrète, je trouve, parce qu'elle agrège beaucoup de choses. T'as une vision graphique aussi du truc, tu vois, qui est quand même dans la forme, c'est important. La forme, vous avez un beau branding, vous avez une belle façon de présenter les choses et c'est agréable, tu vois, de naviguer là-dessus. Donc, on a fait l'immobilier. Après, c'est quoi aujourd'hui le deuxième gros pôle chez vous, chez les investisseurs qui sont sur Finari surtout?
C'est tout ce qui est actif côté. Donc, ça va être j'ai un PEA, j'ai une assurance vie, j'ai un PER, un compte titre, et à l'intérieur, j'ai des actions, des ETF, des fonds mutuels. J'ai plein de choses, quoi, des foncières cotées. Et donc, c'est vraiment ça, le gros du panier. C'est intéressant parce que, tu vois, ça, c'est pas du tout le patrimoine moyen d'un Français. Nos utilisateurs sont beaucoup plus investis dans la bourse qu'un Français moyen. Parce que, en fait, ils ont compris la puissance de l'outil.
C'est les Français américanisés, quoi.
C'est les
Finari.
Ah, exactement. C'est les Français qui ont vu ce que faisaient les Américains. Et c'est vrai que les Américains, ils ont plein de défauts, mais ils ont compris l'importance de l'investissement. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, investir en bourse, c'est à la portée de tout le monde. En un clic, t'achètes, en un clic, tu vends. En fait, ça a une valeur énorme. Tu peux devenir actionnaire de la plus belle boîte européenne qui est LVMH. En tout cas, c'est la plus grosse. En un clic. C'est incroyable.
Ouais.
En fait, tu profites de... Tu possèdes une partie
de leur
groupe,
réussite. Ouais.
De leur réussite. Tu possèdes une partie du groupe qui fait du LVMH, qui fait du ce que tu veux. Et ça, tu peux le faire dans n'importe quelle boîte. Et donc ça, nos utilisateurs l'ont compris. Et donc, ce qu'on voit... au sein de ce groupe-là d'actifs, cette classe d'actifs, c'est qu'ils ont vraiment compris deux choses. C'est que, d'une part, quand on investit de façon fiscalement optimale. On n'investit pas pour défiscaliser, on investit en optimisant sa fiscalité. Et donc, ils ont du PEA, ils ont de l'assurance vie. Je pense que tu fais partie de ces gens-là. Parce qu'en fait, ils veulent gommer les plus-values à la sortie. Et ils ont des ETF.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment l'autre point important, les ETF, c'est des fonds qui vont répliquer des indices comme le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, l'Eurostock 50. Et donc, ils vont ni plus ni moins faire exactement la performance du marché pour des frais très bas. Sauf que le marché, En fait, tout le monde veut battre le marché, mais le marché, déjà, c'est imbattable sur le long terme. Même les professionnels n'y arrivent pas. C'est prouvé, il y a plein d'études, notamment l'étude Spiva, qui prouve ça chaque année, qui est juste un carnage pour les géants d'actifs, donc c'est le métier. Donc, déjà faire la performance du S&P 500, même faire la performance du CAC cette année, c'est génial, en fait. Ouais. Le CAC, c'est une machine. C'est l'indice qui fonctionne le mieux en Europe en 2023, quand même. Et ben ça, c'est accessible à n'importe qui pour des frais ridicules, en un clic, dans un PEA. Et donc, c'est ça, tu vois, le gros qu'on a sur Finari, c'est ce suivi-là.
On en a parlé avec, dans un épisode avec Édouard Petit, d'épargnant
3.0. Le pape des ETF, lui, il est,
voilà,
il est
qui,
à fond là-dessus.
Effectivement, on a fait vraiment un sujet spécifique ETF. On en a parlé aussi sur la gestion pilotée avec Yomoni, avec Sébastien. Et du coup, c'est vrai que l'ETF, c'est vraiment un sujet très accessible pour qui veut investir en bourse sans y connaître grand-chose. Et l'avantage de Finari, c'est que vous pouvez agréger tout. Les plateformes qui vous permettent d'acheter les ETF, si t'en as sur un compte titre sur de Giro, tu peux, si t'en as sur Bourse Direct, sur Yomoni, si t'en as
Bourso,
sur Boursorama, etc.
Tu peux
effectivement tout agréger, et c'est ça aussi la force du truc, c'est que t'as un seul endroit, une seule interface pour tout voir, quoi.
Et t'as même la partie épargne salariale, épargne retraite, tout ce qu'on oublie un petit peu. Les grands-parents qui ont ouvert un compte il y a 15 ans pour une assurance vie, ben en fait tu peux la connecter aussi. Et vraiment, si tu vois, c'est assez marrant. Quand j'ai créé Finari, moi, je me suis souvenu que j'avais des comptes parce qu'en fait, j'ai repris tous les papiers, les rapports, c'est les trucs que tu reçois tous les ans, que tu mets dans un classeur. J'ai ressorti les trucs. Je me suis dit, mais en fait, j'avais oublié que j'avais ce truc-là, littéralement. Donc, cet argent, je l'aurais probablement oublié. Donc, j'ai au moins la vision. Et en plus, on va pas juste montrer la donnée de façon bête. On va te dire, bah, t'as un PEA, t'as une assurance vie, t'as un PER, t'as tout ce que tu veux. Mais en plus, on va te donner les dividendes que tu touches sur tous ces actifs-là. On va te donner les dividendes que tu as touchés, mais aussi on va les projeter pour donner une vision sur tes cash flows à venir. Notion importante aussi pour l'immobilier. On va te donner l'exposition sectorielle, on va te donner l'exposition géographique. Depuis cette semaine, en fait, c'est même pas sorti, mais à partir de très bientôt, sur l'application, tu auras ton score de diversification sectorielle et géographique. Donc, on va te dire, attention, tu es trop exposé à tel pays, tu es très exposé à tel secteur, tu pourrais rééquilibrer avec telle ou telle manière. Donc, on va vraiment t'accompagner là-dessus. Donc, on va vraiment utiliser ta donnée pour te donner ce qu'on appelle des insights et pas simplement te dire t'as tant sur tel compte. Ça, c'est la valeur de base, mais en fait, on va beaucoup plus loin. Donc, on rend la donnée intéressante et intelligente.
Ouais, c'est ça qui est fou. Tu peux le faire sur la bourse, tu peux le faire sur les boîtes de crowdfunding, donc financement participatif.
Ouais.
On parlait tout à l'heure, avant que je vienne te rejoindre ici, j'étais avec François Carbone, fondateur d'Anaxago. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec WeSeed aussi, et tout ça, toutes ces plateformes, vous les agrégez aujourd'hui. Donc, tu peux aussi avoir une visibilité sur toutes tes obligations que t'as.
Tous les projets.
Financement participatif et tous les projets qui vont avec. La crypto, du coup, on en parlait tout à l'heure, vous agrégez quoi? Tous les exchanges à peu près?
Tous les gros exchanges,
les wallets aussi.
Wallet, Bitcoin.
Ledger, donc vous connectez à Ledger Live et vous...
En fait, on va se connecter directement à la blockchain. Ledger Live, si tu veux, c'est l'interface qui va te permettre d'utiliser ton wallet.
Mais c'est comme, enfin, je veux dire, tu restitues la même info que tu as sur Ledger Live.
Tu restitues exactement la même info, tu restitues même plus parce qu'en fait, on va aller bien au-delà de Ledger Live puisque tu vas avoir un Binance à côté de ton wallet Ledger, à côté de peut-être ton MetaMask. Donc en fait, à tout ça, on gère, je sais pas, 35 blockchains, donc c'est, il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est une partie importante. Et tu vois, en fait, c'était aussi une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a créé Finari, parce qu'à l'époque, nous, on disait, nous, on a de la crypto, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et les gens à qui on parlait, les banquiers, ils nous disaient, mais la crypto, nous, on regarde même pas, ça nous intéresse même pas. Donc, si tu veux, c'était même pas dans leur logiciel que ça existait. Mais attends, la crypto, c'est important, tu vois.
T'avais une bonne partie d'utilisateurs crypto, non, au départ d'ailleurs de Finari, non, il me semble. C'était très communauté crypto.
C'était beaucoup plus que ça l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des utilisateurs qui sont monsieur et madame tout le monde. Mais en tout cas, la partie crypto, elle était très importante au début parce que on était aussi les premiers à dire, on peut te mettre un MetaMask à côté d'un compte crédit mutuel, à côté d'une épargne salariale Amundi, à côté d'un bien immobilier. C'est des mondes différents quand même. Avant, fallait aller sur 4 plateformes pour voir ça. Là, tu l'as au même endroit. Donc ça, c'est aussi un avantage. Et la crypto, tu vois, nous, on va lancer notre propre produit, donc on y croit. Mais ça se développe à grande vitesse. Donc c'est vraiment... C'est dommage, ce serait dommage de passer à côté. Mais bien sûr qu'on la gère et c'est hyper important.
Et après, vous gérez aussi tous les produits plus alternatifs, comme, je sais pas moi, les sneakers, par exemple.
Les montres. Alors les montres, c'est... Alors tu vois, je porte une Apple Watch aujourd'hui, mais je suis passionné de montres. Ce qu'on a aujourd'hui sur les montres, c'est génial, puisqu'on a à peu près 100 000 références sur Finari, et donc tu peux ajouter je sais pas, une Audemars Piguet, une Royal Oak 15202 avec je sais pas, t'as un cadran bleu et t'as c'est de l'acier.
Ah ouais, vous allez aussi loin que ça.
On a ce détail de référence, et du coup on a aussi une estimation de la valeur de la montre, on a une photo de la montre. Et ça, c'est bête, mais en fait, la réalité, c'est que la plupart des gros investisseurs de montres, elles sont au coffre et ils les portent jamais. Donc là, au moins, tu peux les voir, ça te rappelle, c'est comme les photos de tes enfants. Là, t'as la photo de tes petits-enfants.
Vous allez chercher où l'estimation?
Alors nous, c'est vraiment notre secret maison. C'est qu'aujourd'hui, on a créé un outil qui permet de valoriser des actifs comme des actifs cotés, comme LVMH, comme un ETF, mais aussi comme une montre. Donc, c'est vraiment ça notre sauce secrète. Okay. Et donc, on va chercher énormément de données à plein d'endroits.
Ouais, donc, vous croisez des bases.
Exactement, on croise des données. Et ça, c'est vraiment le secret parce que c'est hyper compliqué. Après, il faut prendre ça avec un petit peu de recul parce que oui, il y a des places de marché pour les montres. C'est un actif qui est peu liquide. La réalité, c'est que vendre une montre, ça prend du temps, surtout quand tu as des montres qui sont chères. Donc, il n'y a pas non plus, tu vois, c'est pas la même liquidité, donc pas la même garantie de prix qu'un actif coté. Et c'est pour ça qu'on en revient au point de dire qu'un actif coté, s'il vaut 200, tu cliques sur un bouton, tu touches 200. Et ça a vraiment une valeur.
Ouais, alors qu'effectivement, tu vois, je reprends les termes d'Arnaud Dubois, qui est donc un des cofondateurs de Matisse Club.
Oui, sur l'art, c'est encore plus extrême.
Et qui effectivement te dit, l'art, c'est un marché d'offrant. Ben, les montres, c'est pareil. C'est-à-dire que si personne veut vendre sa montre, t'as pas de marché, en fait.
Si personne veut vendre sa montre, y a pas de marché.
Et donc, y a pas de prix.
Si t'as pas de prix, y a des montres. Alors, on va parler des modèles qui sont vraiment très chers, mais il y a des montres où il y a 3 exemplaires dans le monde.
Ouais.
Si les 2 autres sont dans un coffre ou perdus, comment tu sais quelle est la valeur? Et ben, en fait, c'est l'offrant, effectivement, qui définit. Donc, bien sûr que c'est un marché difficile. Après, c'est pareil. Les montres, on me demande souvent est-ce qu'il faut investir dans les montres, est-ce que c'est indispensable. Si on reprend la pyramide,
c'est tout en haut.
C'est tout en haut. Ouais. Donc, si t'as envie de faire de la montre, pour moi, et d'ailleurs, je l'ai aussi expliqué sur mon Twitter, c'est de la passion. Faut vraiment voir ça comme un investissement passion. Si on est intéressé par les montres, franchement, faut y aller, mais faut partir du principe qu'on va pas gagner d'argent. Et c'est beaucoup plus intéressant de le faire comme ça et de s'intéresser aux montres, à l'histoire des grands horlogers, aux mécanismes, plutôt que de voir ça comme un truc purement spéculatif, parce que franchement, c'est hyper compliqué. Il y a des pros qui sont beaucoup plus forts que tous les investisseurs particuliers. Alors que si on y va avec l'angle passion, comme pour les sneakers, comme pour tout, tu vois, l'art aussi, je trouve que ça remet un petit peu d'émotionnel dans ta stratégie d'investissement, où en fait, comme dans l'immobilier, il faut être très, très détaché, quoi. Quand tu achètes un bien locatif, faut pas que tu te projettes dedans en disant « est-ce que j'ai envie d'y vivre ?» Non, c'est un produit. Là, je trouve que sur cette partie, les actifs alternatifs, tu peux mettre un petit peu d'émotionnel.
Un peu d'affect, ouais, effectivement.
Un petit peu d'affect, et du coup, ça rend le truc marrant.
Ouais. C'est ce que je disais sur, à propos de l'art, effectivement. Bon, moi, j'ai investi dans l'art, et tu vois, j'aurais du mal j'ai même du mal à vendre aujourd'hui, c'est irrationnel, tu vois. Je vais me dire, alors que ça serait peut-être le bon timing pour le revendre, et je me dis, putain, merde, tu vois, il me plaît, quoi. Il est beau, il est accroché à mon truc, ça me plaît à moi.
C'est génial.
Et tu vois, je vis avec, je le vois tous les jours. Enfin, là, je suis en travaux, donc je le vois pas trop en ce moment, mais je l'ai bien mâché, bien mis en sécurité. Mais tu vois, quand je vais le remettre au mur, là, dans quelques semaines, je me dis, j'ai envie de vivre avec. Et donc, tu vois, c'est là où t'as plus le côté rationnel de l'investisseur, tu vois.
Ouais.
Donc, je comprends tout à fait. D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup de faire alors, autant sur l'art, on a fait des sujets, mais tu vois, sur les montres, donc, si t'as quelqu'un à me recommander, ce sera avec plaisir.
Écoute, j'ai plein de gens à te recommander. Ouais. Moi, j'ai reçu Romain Réa, qui est vraiment, je pense, le plus grand expert montre en France. C'est le président d'une maison d'enchères qui s'appelle Antiquorum, qui est la plus vieille maison d'enchères française. Romain, je pense qu'il a vendu des milliers de montres. Il peut te raconter une histoire. Il est passionné par les montres militaires. Donc c'est simple, tu lui dis montre militaire, tu le retrouves 4 jours plus tard, il est toujours en train de parler, il te raconte des histoires et c'est passionnant.
Ouais, intéressant.
Il est incroyable, il est partout, c'est vraiment un expert. Donc,
un autre sujet, je cherche quelqu'un depuis un moment et franchement, j'arrive pas à avoir des retours. Pourtant, il y a un max d'influenceurs là-dessus sur les sneakers.
Ouais, je connais moins, mais c'est très très difficile. Et c'est pareil, tu vois, les sneakers. Ce qu'il faut quand même voir dans tous ces marchés, c'est que, et les montres, j'ai eu la chance de voir un peu l'envers du décor, notamment via des gens comme Romain, mais aussi en allant directement dans les enchères, allant dans les grandes ventes à Genève.
Parce que t'es passionné de ça.
Parce que je suis passionné par ça, parce que j'ai des amis qui sont passionnés, qui sont beaucoup plus riches que moi aussi, et donc ils ont des moyens. Donc j'ai accédé à des trucs et j'ai vu aussi que c'était des marchés qui sont quand même contrôlés par très peu de gens.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai marché d'une montre, les sneakers, c'est pareil. C'est des très gros collectionneurs, c'est des très grosses fortunes, c'est les vendeurs aussi, enfin les revendeurs qui franchement manipulent le marché, il faut bien le dire.
Ouais.
Donc tu vois, typiquement les sneakers, je me souviens que quand les Dior Jordan étaient sortis, je connais des gens, en fait ils avaient déjà une allocation sûre parce que juste ils dépensent 200 000 euros par an chez Dior depuis 20 ans. Ouais. Forcément, ils les appellent, ils leur disent « vous en voulez une
?» C'est comme les Birkin chez Hermès pour les sacs.
C'est pareil. Ça, ouais. Donc en fait, ces gens-là, tu vois, c'est quand même eux qui contrôlent le marché. Donc, il faut toujours prendre ça quand même avec un peu de recul. Et il faut se dire, on reste un petit poisson où il y a dans une mare où il y a des requins ou des baleines qui peuvent, comme la crypto d'ailleurs aussi, qui peuvent vraiment faire bouger les prix dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que si on y va avec le truc passion, franchement, c'est hyper intéressant.
Oui, c'est un investissement plaisir, clairement.
C'est un investissement plaisir. Et tu vois, toi, tu dis que ton tableau, t'as pas envie de le vendre, mais c'est trop bien. Parce que concrètement, moi, j'ai aucun affect vis-à-vis de mes ETF. Je m'en fiche. C'est purement financier. Mais par contre, effectivement, heureusement que je peux contrebalancer ça. Parce que sinon, et c'est aussi un peu le message sur Finari, c'est que oui, il faut optimiser, mais il faut quand même rester rationnel. C'est-à-dire que tu peux pas tout optimiser. C'est-à-dire, si t'as envie d'investir dans des sneakers, c'est d'avoir 2% de ton patrimoine là-dedans. Est-ce que c'est la meilleure décision financière? Probablement que non. Est-ce que t'as quand même envie, tu devrais quand même le faire? Oui, parce qu'en fait, t'es un humain, donc écoute-toi.
Si c'est ton kiff et que t'aimes ça, évidemment.
Voilà,
évidemment,
exactement. Donc, faut pas non plus se limiter pour ça. Faut se laisser une poche. Tu vois, souvent, moi, je dis aux gens, vous faites votre PEA, votre assurance vie, dans laquelle vous mettez que des ETF et vous allez chercher vraiment la performance.
Du long terme.
Du long terme. Par contre, prenez-vous un compte-titre dans lequel vous allez acheter les actions de boîtes qui vous plaisent.
Ouais.
Et tu vois, moi, j'ai une stratégie toute simple, hein, c'est que j'achète les actions des entreprises dont je suis client.
Ouais.
J'adore tout ce qui est Apple. Bon, bah voilà, je suis actionnaire
même
Apple.
Même approche que toi.
Voilà, mais tu vois, mais c'est une approche qui est hyper rationnelle.
D'ailleurs, j'ai acheté des actions de Finari.
Exactement, bah, tu vois, c'est encore mieux. Bientôt côté en bourse, j'espère. Mais franchement, c'est une bonne approche et c'est un petit peu ton sas de décompression. Et donc ça, on le voit vraiment qu'il y a beaucoup de nos utilisateurs qui ont 90% de leur poche actions. C'est du l'investissement long terme, purement financier. Mais après, ils peuvent pas s'empêcher quand même d'avoir un petit peu de Total, Air Liquide et des actions où ils font du stock picking pour aussi se faire plaisir.
Ouais, c'est une belle conclusion, je pense, sur la partie action. Ça, c'est clair. J'aimerais bien, pour finir l'épisode, tu vois, que tu nous parles un peu de, justement, la projection de l'investisseur via Finari sur son patrimoine demain et ses objectifs de vie.
Ouais. Ça, c'est une partie importante. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'utilisateur, quand il va connecter son patrimoine, la première question qu'il va se poser, c'est où est-ce que j'en suis? Est-ce que ce que je fais actuellement, c'est la bonne stratégie? Donc, tu vois, sur ça, on est en train de bosser vraiment et on va notamment utiliser l'IA pour faire une analyse hyper profonde et te dire concrètement voilà où t'en es, voilà ce que tu pourras améliorer, voilà les points forts, voilà les points faibles de ton patrimoine. Après, une fois qu'il a fait l'état des lieux, il veut se projeter effectivement. Et donc là, la réalité, c'est qu'il y a des modèles mathématiques qui te permettent d'aller faire des simulations qui sont hyper précises. Est-ce qu'elles correspondent à la réalité? Non, c'est basé sur des données passées, donc tu peux pas assumer que c'est, enfin, tu peux pas partir du principe que ça va se passer comme ça. Par contre, c'est la meilleure approximation qu'on a parce que c'est quand même la réalité des 100 dernières années. Et donc, c'est vrai qu'on a mis, on a créé plusieurs fonctionnalités autour d'un modèle qui s'appelle le Monte Carlo qui va utiliser les données passées pour projeter ton patrimoine dans le futur. Et donc, on a notamment fait un outil qui permet de calculer si on va atteindre l'indépendance financière, si oui, à partir de quel âge, combien on pourra dépenser tous les mois, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer et d'étoffer pour que, en fait, tu puisses définir n'importe quel objectif, croiser les objectifs, donc dire, bah, je sais pas, moi, je veux m'acheter un bien, je veux être indépendant financièrement à 50 ans, ou alors je veux tout simplement avoir plus de patrimoine. Qu'est-ce que je dois faire comme allocation? Mais en tout cas, utiliser la data que tu nous mets à disposition et utiliser la data que va utiliser un banquier privé, enfin, les modèles que vont utiliser un banquier privé pour derrière te donner de la visibilité et t'aider à faire les bons choix dans ton allocation. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est là où ça se joue. C'est l'allocation qui va définir la trajectoire patrimoniale qu'on va avoir. C'est pas le détail, c'est pas est-ce que c'est plutôt Total ou LVMH. C'est combien, quel pourcentage de mon patrimoine j'ai dans l'immobilier? Quel pourcentage de mon patrimoine j'ai dans les actions? Combien j'ai de levier dans mon patrimoine? C'est ça qui va être important. Donc, c'est vraiment les grandes masses qu'il faut regarder. Et là, on peut vraiment apporter de la visibilité là où il n'y en a pas du tout aujourd'hui.
Et ça, tu le fais dans quel sens? Dans le sens, j'entends, où tu donnes un objectif et on te donne les moyens pour les atteindre, ou alors tu le fais dans le sens, avec le patrimoine que j'ai à l'état actuel, considérant qu'il ne bougera plus, qu'est-ce que ça va donner dans 5, 10, 15 ans?
On a commencé par faire le deuxième cas. On a dit, voilà, si tu fais rien, voilà ce qui va se passer. Enfin, on demande quand même combien tu continues à investir tous les mois pour qu'on ait quand même ce taux d'épargne. Mais maintenant, ce qu'on veut surtout faire, c'est te dire, c'est qu'on veut t'écouter toi et te demander qu'est-ce que tu veux faire.
Ouais.
Et en posant la question à nos utilisateurs, on s'est rendu compte que l'indépendance financière, qu'on peut définir de plein de façons, mais pour moi, c'est ne pas être obligé de travailler. Ça veut pas dire être à la retraite, ça veut pas dire arrêter de travailler, ça veut simplement dire pouvoir faire ce qu'on veut.
Avoir le choix.
Avoir le choix. Ce qui, je pense, c'est la liberté ultime. Et ben, c'est l'objectif numéro un de très loin. Deuxième objectif, c'est juste avoir plus de patrimoine. Et très loin derrière, après, on avait des objectifs comme préparer sa retraite, etc. C'est parce qu'aussi, on a une audience qui est quand même relativement jeune, 30-35 ans. Donc forcément, la retraite, ça paraît très loin, surtout maintenant. Mais du coup, on veut plutôt partir des besoins des utilisateurs. Et donc, on est parti des besoins des utilisateurs en se focalisant sur l'indépendance financière. Mais à terme, en fait, c'est toi qui pourras construire ton objectif personnalisé qui pourra être fait de plusieurs sous-objectifs. Et même les objectifs de ta femme, les objectifs de ton mari, les objectifs de tes enfants. Enfin, vraiment prendre en compte tout ça. Après, la réalité, c'est que tout ça, ça reste quand même du bon sens et que tout le monde veut faire du sur-mesure, mais il y a quelques modèles d'allocation qui répondent à la majorité des cas.
Bien sûr. Donc, t'as toujours un 80-20 partout. Hein.
T'as toujours un 80-20. Ouais. Donc ouais. Oui, tu peux aller chercher... Tu vois, je pourrais te montrer une allocation. On avait reçu un gérant de fortune qui nous avait montré l'allocation qu'il fait pour ses clients. Alors oui, c'est hyper précis.
Ouais, je m'en souviens.
Donc c'est génial. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui a 40 millions d'euros.
Ouais, ouais.
Quelqu'un qui a 40 000 euros, il n'a pas besoin de ce niveau de détail-là. Ouais. Il fait les basiques. Franchement, ça a très bien se passé. Et après, surtout, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les gens qui ont des grandes fortunes chez nous, c'est des entrepreneurs. Donc, si tu ne possèdes pas les parts dans ton entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, si tu n'es pas actionnaire, tu vas avoir du mal à vraiment faire un bond en avant. Donc oui, tu peux investir beaucoup, etc., mais tu seras quand même capé.
C'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, j'organise pour ceux qui ne le savent pas des séminaires sur l'immobilier qui s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier, qui est le titre de mon bouquin. Et du coup, j'introduis toujours les séminaires par des stats de l'INSEE qui montrent le patrimoine des 10% les plus riches.
Ouais,
des
hyper intéressant voilà. Cette stat.
Et donc, tu te rends compte que les 10% les moins riches des 10% les plus riches ont beaucoup d'immobilier et qu'en fait plus t'es riche moins t'as d'immobilier parce que ça reprend ce qu'on se disait tout à l'heure comme quoi l'immobilier est un levier d'enrichissement mais c'est pas une finalité en soi et quand tu regardes le patrimoine du 1% des plus riches des Français grosso modo c'est tiers patrimoine professionnel, tiers immobilier et tiers marché financier. Enfin, grosso modo, c'est enfin produit financier.
Ça.
Et un peu de patrimoine qu'on appelle résiduel, dont on parlait, à l'art, les montres, etc., qui représente grosso modo entre 5 et 8% dépendamment de l'appétence au risque. Mais tu vois, alors que on va dire que les 10% les moins riches des plus riches, ils ont 70% d'immobilier et 30% de financier, mais très peu de professionnels.
Ouais, en plus. Et donc, ils ont jamais ce levier le plus puissant. Et si tu regardes même les 0,1% les plus riches au niveau mondial, tu te rends compte que l'immobilier, bah, en fait, si t'as 1 milliard d'euros, tu peux pas avoir la moitié de Paris. Donc,
bien
en
sûr.
Gros, ça va être 5-10%. Parce que tu peux pas vivre dans 15 maisons en même temps. Par contre, est-ce que tu peux investir dans 15 fonds de private equity, investir dans des ETF, investir dans des actions? Bah oui.
Ouais.
Et surtout, tu vas privilégier ça parce qu'il y a de la liquidité. Et après, t'as aussi d'autres outils comme les emprunts, tu peux faire du lombard, etc. Donc, tu peux faire plein de trucs. Mais effectivement, c'est intéressant.
Et t'as beaucoup de mindset aussi. C'est-à-dire que quand t'es toi-même entrepreneur, tendance à aller investir dans des entreprises, à faire du private equity, à pousser les entrepreneurs, à être un peu business angel aussi. Et donc, du coup, ça va augmenter aussi cette part, quoi.
Ça va augmenter cette part, mais tu vois, c'est marrant parce que moi, depuis que je suis entrepreneur, je suis beaucoup plus... Enfin, j'ai baissé mon exposition à tout ce qui est illiquide aussi pour me dérisquer. Parce que la réalité, c'est que je suis déjà all-in. Mon patrimoine, c'est 99%.
Alors, c'est souvent les entrepreneurs qui soit ont vendu des boîtes, soit ont déjà eu une première réussite et qui ont pris un peu de cash, effectivement.
Tu vois, ça, c'est hyper intéressant parce que, d'ailleurs, je voulais écrire un article sur ça, mais en gros, un truc qui est vraiment important, c'est que, et je pense que, alors, c'est pas lié à l'immobilier, mais c'est vraiment le mindset de l'investisseur en général, et j'aurais aimé le savoir plus tôt. C'est que ce qu'il faut quand même essayer de faire, c'est viser un succès tôt dans sa vie. Faut prendre tous les risques très jeunes pour avoir un succès rapidement. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un succès quand j'avais 27-28 ans. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Si j'ai ce même succès financier à 50 ans, j'ai quand même moins de temps et moins de levier et beaucoup moins d'envie de prendre des risques derrière. Et donc, avoir ce succès rapide, tu vois, des fois, tu vois des gens qui vendent leur première boîte. Mon associé a vendu sa boîte à 20 ans, tu vois. Donc, en fait, maintenant, lui, sa vision de la vie, mais ça n'a rien à voir avec la mienne parce qu'en gros, il prend le risque, ça fait partie inhérente de son modèle. Il a jamais travaillé en CDI. Il a travaillé en CDI après avoir vendu une boîte. Tu vois, c'est lunaire. Donc, avoir ce succès rapidement, c'est quand même ça la clé. Et ça, c'est vraiment ce qui va mettre le pied à l'étrier. Et d'ailleurs, je me souviens toujours d'une phrase donc je travaillais dans une société qui a été rachetée, puis qui a été cotée en bourse, qui s'appelle Trainline. Et le fondateur, pas le fondateur de Trainline, mais le fondateur d'une société qui a été rachetée par Trainline, dont je faisais partie à l'origine, qui s'appelait Capitaine Train, nous avait dit un jour, le salaire, ça paye votre loyer, les BSPCE, enfin, le dispositif qui vous permet d'être actionnaire de Capitaine Train, ça achète votre appartement.
C'est ça.
Et en fait, il l'avait dit, et littéralement, c'est exactement ce qui s'était passé.
Ouais.
Et ça, c'était fort, tu vois. Et en fait, la réalité, c'est que ça achète pas ton appartement, ça peut acheter 15 immeubles.
Ouais.
Et ça peut acheter plus d'immeubles que...
Dépendamment de la réussite de la boîte, effectivement.
Voilà, exactement. Ah bah, super tributaire. Et ça reste rare. Mais par contre, celui qui joue pas, il peut pas gagner. Donc, tu vois, au bout d'un moment, il faut aussi prendre des risques. Mais c'est vraiment ce côté, prenez des risques tôt. Et vous, on peut pas attendre d'avoir une réussite financière exceptionnelle sans prendre des risques qui sont énormes. Et je, tu vois, tu es entrepreneur, tu le sais. Quand on voit les réussites exceptionnelles, il faut aussi mesurer l'engagement que ça a demandé. Tu vois, les plus belles boîtes, on parle de Apple. Apple, ça fait combien de temps? Ça fait 40 ans que ça existe. Ça a failli couler 50 fois. Ils ont pivoté 1000 fois.
Bah aujourd'hui, combien de fois ils ont douté?
Combien de fois ils ont douté?
Tous les jours.
Tout le temps, tu vois. Et même encore maintenant, ils ont des doutes. Ouais. Donc, c'est aussi ça. Et ça, franchement, ça, tu peux pas le faire avec les actions. Tu peux pas le faire avec l'immobilier. Ça, c'est juste toi qui dois être maître de ton destin et piloter ta boîte. Maintenant, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas du tout un jugement. Mais c'est ça, la réalité. C'est si on veut vraiment faire le grand gap en termes de patrimoine, la meilleure façon, c'est encore d'être maître de son temps et de mettre son temps de l'utiliser pour créer sa propre richesse avec sa boîte,
profit,
quoi. Pour son propre profit.
Ouais. Belle conclusion, en tout cas, sur cet épisode qui était hyper riche. Franchement, j'ai super kiffé l'échange. Merci vraiment, Mounir. C'était super chouette. Je pense que tout le monde est chaud pour aller sur Finari maintenant.
Bah, j'espère.
Est-ce qu'on leur dédie un petit code promo?
Bah, carrément.
Ouais.
Avec plaisir.
Ok. Tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un code promo Monitri.
Ouais.
Et on va offrir 20% sur l'abonnement annuel.
Ok.
Pourquoi il y a un abonnement sur Finari? Je pense que c'est important. C'est que vos données, elles vous appartiennent. Moi, je fais pas de pub. Moi, je vends pas les données à des tiers et je vous envoie pas des emails pour vous proposer des abonnements téléphoniques à 15 euros par mois.
Moi, je voulais communiquer sur tes 180 000 utilisateurs. Je peux pas, du coup.
Tu peux. Mais du coup, tu vois, moi, je fais pas. J'ai envie de vraiment faire un business où nos intérêts sont alignés.
Ouais.
Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un abonnement. Si t'es content du produit, tu t'abonnes parce que tu débloques toutes les fonctionnalités. Ouais. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la possibilité de voir sa famille, etc.
Ouais.
Ben, ça, c'est une fonctionnalité premium.
Ouais.
Et donc, en s'abonnant, en fait, on fait grossir Finari. C'est aussi quelque chose qui est lucratif pour nous. Donc, ça nous permet de réinvestir. On réinvestit 100% de notre chiffre d'affaires dans le produit. Et notre but, c'est de faire un géant européen. Donc, 20% pour les utilisateurs et pour les auditeurs, pour tes auditeurs.
Donc,
avec le code
Monitri
tout attaché. Sur notre version web.
Tout attaché. Sur la version web pour vous inscrire. Après, évidemment, vous téléchargerez l'application.
Bien sûr.
Vous pouvez même choisir la couleur de l'icône.
Exactement.
Ah non, ça, c'est pour tout. Ouais, c'est pour les premiums.
Ça, c'est pour. Ça dépend du nombre de parrainages que tu as fait. Mais toi, vu que tu es actionnaire, tu as une icône qui est spécifique.
Okay. Et c'est combien l'abonnement par an?
C'est 120 euros par an.
Ok. Moi, je le paye sans regarder, en fait. Donc, c'est pour ça que je...
Bah, t'as raison. Bah, pour le moment, ça veut souvent dire qu'on devrait augmenter le prix. Mais tu vois, c'est intéressant. Et je pense qu'il faut vraiment le voir. D'ailleurs, on a beaucoup de gens, tu vois, qui le mettent sur leur holding, évidemment, ou sur leur SCI, parce que concrètement...
C'est 10 euros par mois.
Voilà, c'est 10 euros par mois. Mais c'est un gain de temps qui est énorme.
C'est moins cher qu'un paquet de clopes pour les fumeurs. Hein. Alors, arrêtez de fumer.
C'est un café par semaine. Ouais. Voilà. Si vous prenez un café par semaine, bah, dites-vous, vous pourriez utiliser Finari.
Ouais, encore si c'est à Paris, c'est pas beaucoup.
Exactement. Ça dépend du café.
Ok. Bon, merci en tout cas, vraiment, Mounir. Donc, si vous voulez aller sur, retrouver Finari, déjà, vous pouvez vous abonner à leur page Instagram. Donc, c'est Finari
HQ.
HQ. Ok. Comme le siège social, quoi.
Comme le siège social. Ouais. Finari était déjà pris, malheureusement.
Comme, c'est ça. Headquarters. C'est siège social. Et puis, t'es actif sur Twitter?
Je suis actif sur Twitter. Ouais. Alors, juste vous tapez Mounir Lagoon, vous me trouverez.
Ouais, voilà.
Je pense qu'il y en a Lagoon
avec 2G.
J'ai pas de Lagoon avec 2G.
Ouais. Ok. Mounir Lagoon sur Twitter. Et surtout, chaîne YouTube aussi.
YouTube de Finari.
Ouais.
On fait plein de choses et notamment des analyses de patrimoine de nos utilisateurs.
Ouais.
Donc, nos utilisateurs nous partagent leur profil de façon anonyme.
Ouais. Ça réagit bien, j'ai l'impression, dans cette vidéo.
C'est notre plus gros succès. On n'a jamais autant de vues depuis qu'on a lancé ça.
Ouais.
Pourquoi? Parce que je pense que c'est dans la même veine de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'en fait, c'est des vrais patrimoines, de vrais gens avec des vrais objectifs qui se posent des vraies questions. Et du coup, ça inspire énormément. Et on a des gens qui sont évidemment... qui ont des très gros patrimoines, mais on a aussi des gens qui ont des plus petits patrimoines. Et tout le monde apprend dans l'histoire. Donc, franchement, sur la chaîne YouTube, on en met toutes les semaines en ligne. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool.
Bon, vous apprendrez plein de choses. En tout cas, moi, je suis toutes les aventures de Finari. Vous avez compris que j'avais participé à la levée de fonds aussi, je crois. Il y a combien? 1000 personnes?
Il y a 1000 personnes qui sont 1000 utilisateurs qui sont devenus actionnaires. Et c'est aussi, on a battu le record européen de vitesse pour lever 2 millions d'euros. On a fait tomber les serveurs du partenaire par lequel on est passé. On a déclenché une espèce de furie totale. Et il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui ont depuis lancé des levées sur le même modèle, comme Conto. Là, il y en a encore plein qui lancent en ce moment. Donc, on a été vraiment les premiers en France à utiliser cette nouvelle réglementation qui permet de lever des fonds avec des montants conséquents via ses utilisateurs. Et ça a été un beau succès. Et on compte réitérer l'opération. Donc, notre prochaine levée de fonds, on veut associer à nouveau nos utilisateurs pour qu'ils puissent être encore plus aligner nos intérêts avec les leurs.
Restez connectés en tout cas pour tout ça. Merci encore Mounir.
Merci, c'est cool.
Merci à tous d'être là aussi parce que c'est vous qui faites le succès de ce podcast. On est de plus en plus, enfin vous êtes de plus en plus nombreux et donc on est de plus en plus nombreux tous ensemble chaque semaine. Merci. Partagez cet épisode parce que je pense qu'il va être utile à beaucoup de personnes autour de vous. Partagez-les sur vos réseaux sociaux, mais partagez-les aussi à un dîner de famille, avec un rendez-vous avec des amis, un apéro IMO, ce que vous voulez. Voilà, c'est très intéressant. On a parlé de Finari, mais on a surtout parlé aussi d'allocation en matière d'investissement. Et ça, c'est très intéressant pour tout le monde. Merci pour la valeur que tu nous as délivrée, Mounir, aujourd'hui. À très vite à tout le monde. Ciao, ciao, merci.
Salut, Julien.
Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.